Ellers has George. George with 2 seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As it is possible, Lenny Wilkins leads to four. And for the second time today, the visiting 10
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time. Money Time, c'est votre émission basket sur graphite, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange ou on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Après un mois sans nous, vacances oblige, on espère que vous avez tenu le coup et on est ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale Defense. Il va y avoir du cake, du style, du rebond et d'agnac, croyez-moi. Alors Money Time a sa page Facebook, hein, qu'on vous invite à découvrir et à liker, ainsi qu'un compte Insta, MoneyTime60, pour aller faire un tour. Et sans plus attendre, on lance le premier teaser.
J'avais un bon job jusqu'à ce que mon patron me reproche de l'avoir volé. Je ferais mieux d'appeler Saul.
Je fais un peu la fête, mais je fais de mal à personne.
Vous êtes en état d'arrestation.
Je ferais mieux d'appeler Saul.
Bonjour, je suis Saul Goodman. Savez-vous que vous avez des droits? La Constitution vous l'assure, et moi aussi. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, chaque homme, femme ou enfant de ce pays est innocent. Et c'est mon combat pour toi, Albuquerque.
Et oui, quand on parle basket, on pense souvent panier, spectacle, score fleuve, surtout dans la NBA actuelle. Pourtant, il existe bel et bien une autre tactique que celle qui consiste à marquer plus de points que son adversaire pour gagner un match. Il suffit tout simplement d'en encaisser moins que lui. Alors aujourd'hui, Money Time vous propose de visiter ou revisiter un concept, un état d'esprit autour d'équipes, de joueurs, d'affrontements légendaires qui ont consacré un art peu populaire, ingrat et souvent dénigré, la defense. En philosophie de jeu et en clé du succès. Au sommaire donc de cette émission, on évoquera les joueurs emblématiques qui, au cours des dernières décennies, faisant fi des strass et des paillettes, ont consacré leur carrière à pourrir celle de leurs adversaires, hein, des noms comme Rodman, Wallace ou Bowen, qui résonnent encore dans les cauchemars des meilleurs attaquants de la Ligue. On vous proposera également une petite rétro sur l'équipe qui a fait de la défense une religion, hein, de l'engagement un credo et du hustle une philosophie, les Detroit Pistons. On testera également nos connaissances et les vôtres, hein, chers auditeurs, en matière de culture défensive avec l'inimitable quiz du Gosbo. Et enfin, notre buzzer-beater de la soirée s'évertuera à trancher la question suivante. Quel est le meilleur duo de matons actuel, hein, pour mettre sous cellophane ou congeler un Kevin Durant ou un KD Roussel, un Lou Caramel ou un curry de poulet? Alors, pour m'aider dans ma tâche... Une team dont les bad boys eux-mêmes se méfieraient, hein, des mercenaires capables de couper l'électricité à Thomas Edison quand ils le désirent, de noyer un poisson dans l'eau, de véritables free and D qui font mouche dans leurs interventions et qui te verrouillent une émission comme personne. Il est notre Drew Holiday à nous, plus vert que le trèfle, un homme qui ne cherche pas la lumière mais qui se plaît à l'éteindre. Voici Bruno. Salut Bruno. Fort de ses études en boucherie-charcuterie, où il a appris l'art délicat du ficelage de rôti, à l'entraînement, il arbore d'ailleurs régulièrement un jersey de l'iconique Ben Wallace. Voici Mehdi.
Salut les potos.
Alors, on avait Baptiste qui devait venir. Bon, finalement, il est malade, donc on lui fera pas son... Je voulais le présenter quand même, parce que pour lui faire un petit clin d'œil. Hein. Videur de boîte de nuit, légionnaire. Il porte un tablier de cuir maculé du sang des joueurs sur lesquels il défend. On lui fait une dédicace, c'était Baptiste, mais voilà, il sera pas avec nous ce soir. Et enfin, adepte du bondage, maître dominateur tout de cuir vêtu, mais sans la moustache. Il éprouve un plaisir non dissimulé à mater des matchs où les équipes ne dépassent pas les 100 points, ce qui est considéré dans notre société actuelle comme une forme de déviance, voire de perversité. Applaudissements pour Wam, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai décidé de m'applaudir.
Ouais, c'est ça. T'estimes
c'est qui, le patron,
devoir être applaudi, c'est beau.
Voilà. Bon, messieurs, ça va? Tout va bien?
Ça va, impeccable.
À moi pour faire un petit break.
Oh, on en a des choses à dire, là.
On a des choses à dire, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on annonce, on débordera peut-être un petit peu. On a 8 minutes de débordement possible, si on a des choses à dire. Puisque, malheureusement, Rémi assurera pas Kenny Udigit derrière. On lui fait une petite dédicace. Il se lève très tôt demain. Donc voilà, comme petite dédicace à Rémi. Et sans plus attendre, on lance tout de suite notre première rubrique, l'actu du basket. Autant dire tout de suite, dans cette rubrique, on ne parlera pas du fiasco du All-Star Game qui, après une 453e tentative, n'a accouché que de longs spots publicitaires sans rapport avec le basket. Messieurs, voilà, on a terminé sur le All-Star Game. Exactement. Hey, j'ai pas mis les, j'ai pas mis les micros.
C'était le seul moment bien dans le Star Game, ça a été le concours à 3 points, qui était vraiment sympa. Sinon, tout le reste après, on fait une boule de papier, on vise la corbeille.
Et j'ai dit. En plus, j'ai entendu que c'était vraiment cette année, c'était le pire au niveau temps de basket en fait.
Le temps de basket. 35 minutes, je crois, en cumulé.
Sur 3 heures de direct, t'as 35 minutes de basket.
Ils en ont des choses à dire, ils ont de la chance.
Sans déconner.
Du coup, on enchaîne avec les vraies infos. Le point blessure qu'on envisage de rebaptiser le point Sixers ou le point Mavs, puisque c'est très étonnant, on a appris la semaine dernière la fin de saison actée pour Jojo Embiid et du coup pour les Sixers, si on part du principe qu'elle a commencé un jour cette saison. Alors merci pour l'entêtement de Philadelphie à faire de mes pronostics de début de saison un sujet de moquerie par mes camarades autour de cette table.
Faut écouter les professionnels.
Voilà, je m'en doutais. Comme Paul George vit sous perfusion et que Maxi a réussi à se blesser aussi.
Paul qui
également.
Ah pardon.
Il va arrêter son podcast apparemment. Il a tellement eu de pression.
Ouais, c'est ça. C'est comme si moi je jouais en NBA que je faisais une émission de basket. Pas possible, visiblement c'est pas compatible. Bon, je pense qu'on peut officiellement mettre les Sixers en vacances, messieurs, vous êtes d'accord?
Ils sont 11e, attends, ils peuvent gratter un petit play-in là, entre les Hawks et les Bulls là.
Pareil, compliqué. Et justement, dans la même famille poissarde et illusions perdues, hier, on a encore vécu une grande journée pour Nico Harrison, dont la cote de popularité ferait désormais rire Emmanuel Macron lui-même. On rappelle que depuis le transfert visionnaire d'un certain Luka Di, dont on souhaite préserver ici l'anonymat, Anthony Davis a fait honneur à sa réputation en se blessant dès son deuxième match. Et on rappelle que les Mavs, justement, faisaient déjà sans Derek Lively, rejoint dans la foulée par Gafford, puis PG Washington.
Il n'y a plus en intérieur.
Voilà, et bien hier, donc, Kyrie Irving, seul motif de réjouissance du côté de chez JR et Bobby Ewing, a été annoncé comme indisponible pour très longtemps.
Oh, ils disent même la fin de l'année 2025.
Ah, quoi, rupture ligamentaire du genou.
Ligament du genou.
Et la blessure, elle est moche.
Ah ouais.
Tu l'as vu le genou
partir
à l'envers.
Non, j'ai pas vu, j'ai pas regardé
la blessure. Ah, tu le sens que ça pète dans les deux sens. Là.
Ah, puis il pleure direct. Enfin, tu sens que c'est...
Il va tirer ses lancers francs quand même. Hein.
Ouais.
Comme Kobe l'avait
fait. Parce qu'apparemment, ça donne la possibilité de revenir sur le terrain.
Ouais, s'il y a changement sans tirer tes lancers et que c'est un autre joueur qui tire tes lancers, tu ne peux plus rentrer dans le jeu.
Donc il voulait garder cet espoir-là, mais bon.
Voilà, bon, enfin en tout cas, on peut le dire, Dallas, ton univers est pitoyable.
Dallas, les pauvres fans des Mavs.
Ah oui, on est vraiment désolé parce que c'est vrai. En plus, les gars, honnêtement, tu prends le roster de Dallas, tu mets des mecs en bonne santé.
C'est pas dégueu.
Ils sont contenders, hein.
Oui.
Davis, Irving, excuse-moi, mais il n'y a pas beaucoup de duos comme ça.
Surtout Irving, cette année, il faisait quand même une saison. Enfin, il faisait une saison.
T'as avec Clay Thompson, t'as PJ Washington.
Clay Thompson, il doit se dire, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là
C'est vraiment surtout Golden State.
Oui, Golden State, quand tu vois les résultats de Golden State.
Bon, justement, Wemby, alors on n'a pas eu le temps de le dire parce que, on a eu une longue pause d'un mois, mais Wemby s'est blessé. Popovic ne reviendra pas, même s'il espère être de retour l'année prochaine, ça paraît quand même.
Est-ce qu'ils vont changer de coach, les Spurs?
Moi, je pense que c'est plus grave que ce qu'ils ont bien voulu annoncer au début. AVC, je pense qu'il ne reviendra pas.
Faut quand même imaginer, tu fais un AVC, en plus les mecs ils se tapent le rythme.
Avec
l'avion,
la pression de la NBA,
les
il y a plus de 70 ans.
En tout cas, après de beaux espoirs, la saison des Spurs ressemble de plus en plus à un amour de jeunesse. Tu y crois très fort, mais en réalité, faut laisser un peu de temps.
Tu conclus jamais.
À l'avenir le dira. Mais en réalité, faut laisser un peu de temps et prendre en expérience. Mais bon, les raisons d'y croire existent. On n'est pas
avoir encore un bon pic. Vous vous rappelez la saison, j'ai entendu ça, la saison où il draft Duncan? C'est une saison où Robinson est blessé.
Oui, oui, oui.
Et donc.
Tu reviens, bah oui, bah
ils ont tanké
et Duncan et Robinson.
Ouais, bah oui. Imagine. Bon.
C'est vrai.
Ce qui peut se passer d'ici fin d'année.
On termine avec l'Euroleague. Alors, cette semaine, chaud et froid pour le Paris Basketball, entre belle victoire contre le solide Bayern Munich, hein, toujours porté par les frêles mais formidables épaules de TJ Short. On pourrait traduire par « très jolie Bermuda ». Voilà. Pardon, là je l'ai travaillé. Et courte défaite contre le Fenerbahçe, par contre lundi soir en match en retard. Bon, un match assez incroyable. Hein, Nadir Effi qui plante 3 shoots à 3 points, dont un du logo pour revenir. Mais Kevarius Hayes avait laissé ses moufles aux mains.
Alors c'est le genre de match où tu vois la fin, tu te dis « oh, et on, dommage ». Mais enfin, un match, ça ne commence pas au quatrième quart-temps. Arrivé à un moment…
Non, et puis bah, comme on disait en antenne, 29 rebonds offensifs laissés, ça en fait un peu beaucoup quand même. Hein. Il y avait JP de l'autre côté, ouais, dédicace à JP. C'est ça. Pour Monaco, ça reste solide, hein, même si ils ont perdu contre l'Olympia Milan. Mais ils enregistrent quand même, on ne l'a pas dit, la signature de Daniel Theis, qui est une très bonne pioche. Ouais, hein,
ils ont perdu Galatès aussi.
Ouais, ils ont perdu Galatès. Ouais. Ah, j'avais pas vu.
Ouais. Blessé au genou.
Ouais. En tout cas, c'est une bonne pioche qui a renforcé quand même l'une des places fortes de l'Euroleague, hein, malgré donc, la défaite contre Milan jeudi dernier. Et quant à l'Asvel, bah, lui, il s'est incliné de très peu contre le Panathinaikos. Ça, c'était une belle performance.
Gros match, ouais.
Ouais. Alors, par contre, ils vont sacrément cravacher pour espérer rejoindre les playoffs. Là, ça se sent quand même bien le pâté. Et au passage, mention spéciale à Melvin Aginsa, un gars bien connu dans le secteur, qui a planté 18 points quand même pour finir meilleur marqueur de son équipe contre le Pana. Donc, le Pana, quand même, gros
ouais,
client.
C'est très solide.
Voilà.
Très solide.
Voilà, messieurs, vous avez un truc à dire sur l'actu?
Ah, on peut bien, dire là, aussi que l'équipe de France s'est qualifiée tranquillou
pour l'Euro basket.
Sans ses cadres.
Ouais.
Sans ses cadres. Certainement que les cadres ne viendront pas non plus. Hein.
Ça va être cet été, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme équipe.
Je pense qu'il va y avoir de la place à prendre dans la raquette, oui.
Poirier va peut-être revenir. J'aimerais bien que Poirier refasse une vraie campagne avec les...
C'est-à-dire que là, par contre, ils n'auront pas Wemby, ils n'auront pas...
Pas Gobert.
Gobert, a priori.
Fournier, il hésite. Enfin, je sais, apparemment, c'est un peu au milieu. Batum ne sera plus là non plus.
Après, il y a tous les rookies qui ont dit qu'ils aimeraient venir. Hein, de toute façon, Rizaché, Sarr,
Koulibaly. Tu as envie de jouer au basket pour au moins une fois cette année, il faut venir en équipe de France.
Koulibaly est motivé aussi.
Ouais.
Ah, tu m'étonnes.
Voilà, bon, on en a fini pour l'actu, messieurs, et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en introduisant justement notre spécial defense.
Defense.
Allez, c'est parti. Alors, on parlait justement des références. Il y avait une petite référence. Vous avez capté, les gars?
Ouais. Ouais, Seigneur des Anneaux.
Ouais, forcément, vous ne passerez pas.
Pulp Fiction.
Ouais, Pulp Fiction, évidemment. La musique. Et c'était Watchmen.
Mais j'ai pas, non.
Rorschach, le méchant qui. Enfin, le gentil.
Je suis pas trop comics, tout ça.
Ouais, mais il est vraiment bien celui-là.
C'est trop compliqué, tous ces trucs-là.
Ouais, non, il est très très bien. Si vous avez l'occasion de voir.
Plus difficile.
Un peu trashouille, un peu dark, c'est très bien. messieurs, c'est un fait, le basket a évolué beaucoup ces 35 dernières années et il suffit de s'en tenir au simple score moyen marqué par les équipes lors des 4 dernières décennies pour s'en rendre compte. Alors on va faire des stats. Les chiffres ne disent pas tout, hein, mais ils donnent parfois des tendances et ils illustrent des philosophies de jeu bien différentes selon les époques, notamment dans le rythme imprégné au match. Sans rentrer dans les détails de ce qu'on appelle le pace, c'est-à-dire le rythme des matchs, hein, le nombre de possessions qui a énormément augmenté ces dernières années. Voici quelques stats, les gars, pour introduire notre sujet. Si l'on prend par exemple les années 90, le score moyen tournait entre 100 et 105 points par match, avec une tendance à la baisse tout au long de la décennie.
Okay.
Vous vous souvenez les finales des Bulls sur la fin, ça commençait les scores commençaient à nettement diminuer.
Quand ça dépassait 95,
ouais.
C'était un exploit.
Et de 2000 à 2010, la moyenne chute même entre 95 et 102 points, avec cette fois-ci une tendance à la hausse sur la suite, hein, après le point culminant qui pourrait être le titre des Pistons de 2004.
Ouais.
Donc des scores régulièrement. Bon, cette équipe a quand même maintenu, on en parlera plus tard,
hein,
ses adversaires sur des scores de 70 points régulièrement.
70, 80.
C'était bien, moi j'aimais bien, ben, perso. Enfin,
ouais.
Bref.
Voilà.
De 2010 à 2020, le pace and space s'enracine progressivement et l'utilisation du shoot à 3 points commence à généraliser les cartons offensifs. Hein. Le score moyen repart à la hausse et reprend à peu près son niveau des années 90, un peu plus de 103 points par match.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Mais la tendance pour les 5 dernières années, de 2020 à 2025, elle est sans équivoque parce qu'on est passé à plus de 113 points par match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 de plus que lors de la décennie précédente. Le pace est devenu fou, les possessions vont plus. Alors pour expliquer à nos auditeurs, il faut 24 secondes pour attaquer.
C'est ça.
Sauf que dans les années 90, régulièrement, ou dans les années 2000...
Ça jouait placé.
Donc on allait au bout des 24 secondes, exactement. Ça shootait à 22e à peu près, 20e seconde.
Quand t'as des gros joueurs à l'intérieur, une grosse...
Ouais, donc
t'attends
très
que les mecs soient revenus aux positions en attaque pour placer ton attaque. Quoi.
En tout cas, voilà. Quoi. Et donc le pace s'est désormais vachement accéléré, puisque vous avez des possessions qui peuvent durer 5 secondes, hein, régulièrement, voire moins. Le temps de remonter la balle et de balancer un 3 points... à Stephen Curry. Et du coup, messieurs, on peut poser cette question. Quelle équipe était la plus effrayante défensivement? Est-ce que c'était les Pistons version Bad Boys? Leurs éternels ennemis, les Spurs les Bulls de Michael Jordan? Les Pistons, les Spurs ou les Knicks des années 2000, dont on a parlé un petit peu? Le Heat ou les Warriors des années 2010 ou les Celtics d'aujourd'hui? Ça serait intéressant de savoir ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Oh, moi, je suis Piston année 89-90, de toute façon. Ils ont même été obligés de changer les règles parce qu'ils n'arrivaient plus à jouer. De toute façon, c'était tu rentres dans la raquette, il n'y a plus un panier facile.
Tu
te faisais arracher. Si tu voulais mettre tes points, il fallait les mettre sur les lancers.
C'est clair.
Ils ont été obligés d'adapter les règles pour arrêter ça parce que ça devenait une vraie boucherie. On en parlera tout à l'heure. Après, tu as l'autre année des Pistons en 2004 et ça durera jusqu'à 2008-2009, où là, c'était vraiment de la défense, mais de la défense physique. Ça veut dire que les Pistons étaient plus physiques que les autres. Et il y a un joueur qui symbolise tout ça, c'est Ben Wallace. Ouais. Mais le mec, ses bras, c'est mes cuisses. C'était un monstre physique.
Mais... Ceci dit,
il faisait les bandeaux qu'on met sur les fronts.
Mmh. Ouais, il les mettait à son biceps.
Comme moi. Enfin, je fais ça avec les nœuds de ma fille. Sur les biceps.
Non, ouais, après, tu repars. Oui, les Bulls, mais les Bulls, c'était vraiment un collectif. C'était de la défense intelligente.
Ouais.
Et en fait, quand tu jouais contre les Bulls, tu savais que tu ne devais pas perdre le ballon. Parce que dès que tu perdais le ballon, tu prenais 2 points de toute façon. Ça allait trop vite dans les années 90, ça allait trop vite en contre-attaque. Et dès que tu perdais le ballon, tu prenais 2 points. Ça, moi, je dirais que c'est même les Bulls qui ont amené vraiment le jeu en transition, mais ultra transition.
Ils avaient deux défenseurs, on en parlera, puisqu'on va pas, on va évoquer forcément, c'était une introduction au sac majeur par décennie qu'on a essayé de dessiner ensemble lors d'un sondage. Mais c'est vrai que Jordan, Pippen, dans ce qu'on va dire là, c'est les seuls joueurs, je crois, qui ont fait l'unanimité sur tous les votes, en fait.
Oui. Ah ouais.
Pourtant, il y a Rodman.
C'est le trio, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas le séparer, c'est l'ensemble qui était...
Mais c'est parce que t'as Pippen, Jordan, puis avant, t'as eu Pippen, Jordan, Horace Grant, qui était un très bon défenseur aussi, puis après, t'as eu Jordan. Mais c'est vrai que sur la décennie... Jordan et Pippen, ils sont. Tu peux pas les déboulonner du sac numéro 5 des
Français. Moi, Mehdi a prêché pour sa paroisse, alors je vais parler un peu des Celtics des années 60. Après, c'est une autre époque. Mais il y a un gars quand même qui s'appelle Bill Russell qui a révolutionné la défense, quoi. Qui a dit à un moment les gars, moi, je vais pas faire des contres pour balancer la balle comme un gros malade pour perdre la possession. Je vais essayer de la récupérer, la balle. Tu vois, il y avait quand même volonté soit de dévier le shoot, soit essayer de récupérer la balle après le contre, quoi. Il y a pas juste pas envoyer un gros paquet.
C'est intéressant que tu parles de ça parce que quand on parle défense et juste avant de sortir notre premier 5 défensif des années 90 à 2000, il faut quand même mettre en avant les statistiques qui sont régulièrement scrutées quand on parle de défense, hein. On parle forcément de contre, d'interception.
Ouais.
ouais. style. Le rebond défensif, forcément. Mais il y a un autre paramètre aussi qui est de plus en plus mis en avant, c'est ce qu'on appelle déflagration. C'est-à-dire les balles déviées, en fait, par les joueurs. Et là, parfois, on a des résultats étonnants. Par exemple, Caleb Martin, l'année dernière, c'était un des joueurs qui faisait le plus de déflagrations.
Ouais.
C'est pareil, les passages en force provoqués.
Un gars comme Chris Paul, pareil, il arrive toujours à te...
Dévier ou à gêner. Quoi. Ouais, en tout cas, c'est une gêne qui dissuade, en fait. Hein. Après, tu as la dissuasion aussi. Il y a des mecs comme Wembanyama, oui. Gobert, dissuade parce que quand tu vois le gars arriver devant toi, tu changes ton jeu.
Et moi, il y a une stat que j'aime beaucoup regarder. Ça marche beaucoup avec Derek White. C'est-à-dire que quand il défend sur un joueur, en fait, le joueur, son pourcentage, il diminue de près de 10%.
Ça, c'est fou.
Et il descend de 10 points. Ce qui est juste incroyable. Et c'est là que ça se voit. Il peut défendre sur n'importe quel gros joueur. En fait, il va réussir à lui faire baisser son pourcentage au shoot.
C'est ce qu'on appelle les stats avancées.
C'est ce qu'il faut dire aussi sur la défense. C'est que c'est beaucoup lié à des stats, en fait. Après, il y a vraiment des joueurs qui t'impressionnent. Tu parles des Pistons de 2004. Niveau physique, ça a impressionné, quoi. Ça, même où tu prends les Knicks de 94
avec Mason, Oakley,
et Ewing Charles dans Smith. La raquette qui joue à 3 des fois. Ouais. Il faisait jouer à 3 dessous comme ça.
Voir Charles Smith, hein, qui était un bon.
Mais là,
aussi.
Toi, t'avais du physique. Ouais. Mais après, il y a beaucoup d'exploitation de statistiques, en fait.
On en reparlera donc. Du coup, je vous propose de lancer le premier 5, les années 90 à 2000. Alors, en pivot, à l'unanime, justement, il y a eu tension.
Non, il n'y a pas de tension sur le pivot dans les années 90 en défense. Ça n'a pas commencé comme ça.
J'avais dit que ça allait gueuler.
Non, mais c'est acquis, mais c'est tout. Bon, il n'y a même pas de débat.
Ah si, il y a Olajuwon. Moi, on était plusieurs. Mutombo, excuse-moi.
Mais je l'adore, Mutombo.
Mutombo, c'est un meilleur rebondeur que Olajuwon.
Le truc, c'est que si tu prends, après, tu dis...
Au contraire.
Ouais, mais tu veux jouer aussi en attaque aussi avec...
Ah, on est 5 défensifs ou pas
5 défensifs, mais tu as commencé
à s'engueuler. 5
défensifs.
Bon, ça y est, on a traité un des deux sociaux. Ouais. Olajuwon en pivot, Rodman en lié fort, et là c'était l'unanimité.
Oui.
Quasi l'unanimité. On l'a déjà dit en introduction, mais forcément Scottie Pippen. Voilà.
En arrière.
Jordan, difficile. Alors c'est ça qui est assez incroyable. C'est pour ça que quand on parle de GOAT et qu'on se dit que Jordan a été. Un des meilleurs défenseurs. Il a quand même 3 titres, je crois, de meilleurs défenseurs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ?
Je pense qu'il n'y en a qu'un.
Il n'y en a qu'un, c'est vrai ?
Et c'est la même année où il est MVP aussi.
Bon, en tout cas...
Tu viens de me niquer une question du quiz. Ça y est, bien joué. Vive la France.
Donc Jordan, on en parlera, mais qui était meilleur marqueur pendant des années et des années, qui était en même temps meilleur attaquant et un des meilleurs défenseurs, ça vous place quand même le bonhomme. Mmh. Et enfin, un autre joueur dont on n'a pas encore parlé, mais qui a fait l'unanimité, et c'est le seul qui fait l'unanimité sur 2 décennies, c'est Gary Payton.
The Glove.
Payton, c'est le seul qui a contrôlé Jordan.
C'est le seul joueur que j'ai vu gêner Jordan.
Oui, gêner Jordan,
Il y a eu des mecs, hein, Dumars.
C'était un autre style, quoi.
Qui l'a pourri un petit peu.
Non, il avait les mains actives et il avait pas sa langue dans sa poche non plus.
Ah oui, c'est ça. Dumars.
Payton.
Les deux qui travaillaient plus que ses jambes encore.
Payton et Jordan, quand ça arrêtait pas de discuter.
Mais tu te levais la nuit pour voir le duel. Et en plus, Jordan gagnait tout le temps, alors moi, ça m'allait bien.
D'ailleurs, il y avait Trash Talk, on leur fait un petit clin d'œil. Mais
t'as vu le vlog
ils ont réussi à avoir Gary Payton en interview. Et d'ailleurs, Seb disait que sa photo de profil, c'était Payton. Ouais. Donc, il était fou de l'avoir sur le plateau. Il demandait qui était le meilleur Trash Talker. Et il avait évoqué la possibilité que Larry Bird soit le plus grand Trash Talker. Et là, tu lui as dit, Larry Bird, il Trash Talkait que les mecs. Que les joueurs en face.
Sur le terrain.
Alors que moi, je suis trash talké la
salle. Partout.
Bon, bref.
Et lui a demandé pourquoi il arrivait à défendre sur Jordan, quoi. Et il disait, en fait, j'essayais de le mettre sur son. Dans une position inconfortable, quoi.
Ah oui, je te confirme. Les finales contre les Sonics, je crois que Jordan, si je dis pas de bêtises, à vérifier, je crois qu'il shoot à 40%, je crois, sur ses finales.
Ah ouais, ça doit être un des seuls en finale.
Ouais. Jamais on a vu un mec gêné autant. Pourtant, ils sont relayés autour de Jordan. Des armes anti-Jordan, on était censé en avoir.
Mais toi, dans ton sondage, tu avais mis Stockton. Mais...
Non, je l'ai pas mis Stockton.
Il était.
Mais j'ai pas voté pour lui.
Mais personne n'a voté pour lui.
Pourtant, c'était meilleur intercepteur pendant plusieurs années de suite.
Et ça resterait historiquement au niveau stats. C'est il ne se sera jamais rattrapé, je crois, au niveau interception.
Et passe.
Et passe aussi.
C'était une petite teigne, Stockton. Hein. Ouais.
Mais tu vois, il n'est pas resté.
C'est vrai que. On passe de 2000 à 2010, messieurs. Alors là, il n'y a pas eu trop de débat non plus pour le poste de pivot. Bon, Ben Wallace, tu l'as déjà présenté. Je crois même qu'on avait, fait une story sur Ben Wallace. Donc voilà, on vous renvoie à l'incarnation des, voilà, de la dureté, du travail, code bleu. C'est-à-dire le mec, c'est pas un génie du basket, hein, Wallace.
Ouais, mais
non, mais registre, après, si on parlait tout à l'heure des années 90, où on parlait de Mutombo et Adjouane, et Bono, il fait « Ouais, mais en attaque. » Bah là, c'est pareil, quoi. Oui. En attaque, il te ramène rien. Ah si, il te pose un bloc.
Non,
et après, t'as l'impression de tourner autour.
Il pose un vrai bloc, quoi.
Ah ouais, à l'écran. À mon avis, un écran de Ben Wallace, on prenait tout dans ta carrière.
T'as intérêt de l'annoncer, parce que...
Exactement. En ailier fort, c'est là qu'il y a eu débat, quand même. Et il va gueuler encore, le mec à ma gauche. Duncan a été choisi de peu face à Kevin Garnett. Donc mention honorable à Kevin Garnett, comme tout à l'heure on avait une mention pour Mutombo. Ouais. Ah, Kevin Garnett était un grand défenseur, objectivement. Duncan, c'est vrai qu'il s'est farci en plus des clients quand même régulièrement en finale. Hein. Moi je dirais pour la défense de Duncan qu'il avait quand même David Robinson aussi qui lui donnait beaucoup de main quand même à l'intérieur.
Pas dans les années 2000.
Oh bah, son premier titre, c'est...
99.
Ouais. Ah oui, ok, je vais rebosser un peu. Je reviens.
Moi, j'ai voté pour les deux, moi. J'ai mis Duncan et Garnett.
Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Bon, en tout cas, voilà. Bon, Duncan, mon team Duncan, c'est un grand défenseur, en plus, qui a affronté aussi des Mahous. Hein. O'Neill s'en souvient. Il a disait été... qu'il était super chiant à jouer.
Il a été reconnu comme étant un très, très grand défenseur. Hein. Ah ouais. Déjà universitaire, il avait gagné tous les titres de meilleur défenseur en universitaire.
Ouais, un très, très bon défenseur. Mais... Après, qu'il vendait pas du rêve.
Non, puis c'est marrant de c'est le mettre Duncan avec Garnett parce que il jouait les
antithèses.
Il jouait l'un contre l'autre.
Ah ouais. Puis c'était vraiment antithèse.
Ah oui.
Dans l'attitude, l'autre, il arrachait pas un mot, il souriait pas. Garnett.
D'ailleurs, il n'a jamais parlé sur un terrain.
Non, Duncan, on l'a jamais vu gueuler. D'ailleurs, les seules fois où il gueulait un peu, où il parlait, t'avais l'impression que la salle se taisait. Putain, il a parlé, Duncan. En fait, il est pas mis.
Il s'est fait éjecter une fois d'un match, hein, quand même.
Ah ouais,
il s'est foutu de la gueule d'un arbitre sur le banc. Et du coup, faut pas faire ça, hein, les jeunes.
Non, allô, on se moque pas des arbitres. Ok.
Après, l'ailier fort.
Ailier. Alors, bon, ailier fort Duncan. Ailier. Alors, il y a eu débat aussi entre Bruce Bowen et Ron Artest, qu'on appelait par la suite Meta World Peace, qui a changé de nom, à suite à une baston mémorable qu'il faudra un jour évoquer dans cette émission.
Je vais en parler après.
Ah, c'est bien. Ok, donc Bruce Bowen, joueur qui a commencé au Miami Heat, sachez-le quand même, qui a commencé en France, qui a joué d'ailleurs en France, qui est parti au Heat, qui s'est un peu distrait au Heat et qui est parti faire ensuite carrière aux Spurs, où il a fait une grande carrière de défenseur attitré.
Et avec un tireur à 3 points.
Très bon tireur à 3 points, avec quand même une sale spécialité, le posage de jambes au moment où tu prends ton shoot à 3 points adverse.
Ouais, pour casser les chevilles.
Pour casser tes chevilles. Ouais. Depuis,
ils ont changé la règle.
Jurisprudence aussi. Ouais, il y a quelques blessés. On passe au poste d'arrière avec Kobe Bryant, qui, on peut le dire clairement, était un sacré défenseur.
Mais de toute façon, toutes les grandes stars comme ça arrivent à un moment, ils rentrent dans le challenge.
Comme Jordan. Donc.
Et en défenseur.
Ouais. C'était une teigne aussi. Hein, quand il
est arrivé dans les dernières minutes, il ne se cachait jamais. Il allait toujours chercher le joueur en face. Ouais,
les grands joueurs qu'on n'a pas encore évoqué dans Money Time et qu'il faudra évoquer un jour parce que c'est vrai que c'est quand même une légende, Kobe. Hein. Et puis, en meneur, en point de garde, Gary Payton, encore une fois, le seul joueur qui fait deux décennies. À cheval sur deux décennies, peut-être.
Il y en avait, d'autres. Tu vois, on aurait pu mettre Bill Ups aussi, c'était un gros défenseur.
Il y avait
de quoi faire parce que Payton, il est quand même sur la fin, début des années 2000, il est quand même sur la fin. Et... Mm. Ouais, c'est l'un des postes où j'étais le plus gêné là, dans les propositions.
Entre Payton et Kidd, tu choisis en défense, tu choisis
Payton.
C'est pour ça que tout le monde a pris Payton.
Et enfin, on termine par les années 2010 à 2020, parce que ça va être l'heure de la pause bientôt.
Quoi ? Alors,
oui, pause musicale, hein, j'entends. En pivot, Rudy Gobert.
Rudy.
Même si je vais pas vous cacher, moi, que Rudy Gobert, je continuerai à penser que 4 titres de meilleur défenseur NBA, c'est abusé quand tu vois qu'un Jrue Holiday l'a jamais eu.
Voilà, ouais, mais il était dans le bon endroit au bon moment. Et...
Mais je l'ai déjà dit, en meilleur défenseur NBA, il devrait y avoir un trophée pour un intérieur et un trophée pour un extérieur. Sinon, les intérieurs l'auront tout le temps parce qu'ils ont les stats de rebond, les stats de contre.
Exactement.
Ils ont toutes les stats, donc de toute façon.
Du coup, en ailier fort.
C'est Marcus Smart qui a eu le dernier, non, en étant extérieur.
C'est ça.
Exactement.
Ouais.
Bravo. Un verre.
Ouais.
Tu es en train de me.
Qui est devenu un fantôme.
Vraiment me ruiner mon quiz.
Ouais, t'es avec des spécialistes. Hein. T'espérais quoi? Pardon. Antetokounmpo en ailier fort. Ouais. Même si, mention honorable, donc, puisque la seule mention honorable de ce 5, c'est Draymond Green, qui fait débat. Hein. Mais pour moi, qui reste un super défenseur.
Bah voilà. Est-ce que ce mec-là, il aurait pu réussir? Enfin voilà, il a trouvé sa place dans un contexte particulier où il jouait assez petit. Enfin...
Après, je ne sais pas si les gars, vous avez regardé le match de cette nuit, New York.
Ah, j'ai pas regardé, State. Mais j'ai vu le résumé. Ouais.
Mais c'est vrai que Green, c'est que des sales gestes, en fait.
Ah ouais,
c'est,
ouais.
C'est des gestes pour blesser, en plus, régulièrement. Il y a un moment, il se jette dans les jambes de Josh Hart. La balle, elle est perdue, tu vois. Tu sens que c'est juste pour faire
il
un track.
Péter le tibia.
Et s'il peut lui péter les genoux, il... voilà. Mitchell Robinson qui revient, il se retrouve à balancer dans le public, tu vois, qui revient de blessure. Voilà. Il y aurait matière à dire sur Draymond Green, c'est un personnage, mais ça reste un très grand défenseur.
Mais il ne faut pas oublier, c'est une grosse saison, les Warriors de 2015, la saison où ils font 73-9 victoires. 73, la grosse saison, mais ils ne sont pas champions à la fin. Et bien, c'est une... C'est quand même une grosse équipe défensive, quoi. On a tendance à oublier que... Parce que c'était une super équipe offensive.
Mais tout partait à chaque fois dans la défense.
Mais la défense...
Quand ils resserraient la vis dans le troisième quart-temps en défense, c'est là que tu prenais un blitz, quoi. Donc, c'était...
Et là, c'est vrai que Iguodala, il était essentiel dans cette
Alors,
équipe.
Alors, Iguodala, justement, donc en ailier, grand joueur qui était quand même MVP des finales. Mmh. Moi, j'adorais personnellement un des rares joueurs que j'ai vu vraiment gêner LeBron.
Et Boris Dio, voilà.
Ah oui, on est d'accord.
Ah, okay. Bobo.
Mais Boris Dio, il a fait sur une finale.
Ouais. Il a été surpris, LeBron, Boris Dio qui le prenne.
Quand il est rentré dans l'arc, l'autre, il bougeait pas d'un centimètre.
Il bougeait pas, il lui rendait.
J'avais pris mon petit Kawhi, moi. J'avais pas pris Iguodala, j'avais pris Kawhi.
Ouais. Je sais que Kawhi.
Ah, mais Kawhi, moi, je trouve qu'il a pas assez de bonnes saisons sur une décennie pour.
Je suis assez d'accord.
Mais dans ces périodes-là, il a quand même eu. Voilà, il était deux fois défenseur de l'année.
En tout cas, on termine par le poste de... Oui, je suis d'accord. Kawhi Leonard, c'est un grand défenseur aussi. Mais qui a une carrière gâchée par les blessures aussi, et ça manque en continuité, du coup. En arrière, on a Kobe Bryant. J'avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait que Peyton qui avait fait... Mais dans les années 2010 à 2020, Bryant reste un très grand défenseur.
Énorme.
Et puis en meneur, là, il y a eu quand même, je crois, une quasi-unanimité pour Jrue Holiday, qui déjà ses saisons à Philadelphie, à la Nouvelle-Orléans, avait un
joueurs les plus sous-cotés de la Ligue de
France. Je le dis à chaque émission.
Boston, ils n'en ont pas perdu beaucoup cette année, mais à chaque fois qu'ils perdent, tu peux être sûr que lui ou Derek White, il ne joue pas.
Ouais. Ou alors il joue.
Ce duo-là, s'il reste pendant les playoffs, mais moi je continue
mais ils
à
ont
dire
moins
que
de
Boston.
Cette année, on sent que
ils ont moins de marge, mais ils
vont. Holiday commence à vieillir aussi.
La grosse question de Boston cette année, ça va être sur Porzingis. Jamais il ne joue pas contre les Cavs, ils vont avoir du mal à passer.
À l'intérieur, ça va être trop dur. On en parlera sur les meilleurs défenseurs de l'année.
Alors justement, il est l'heure d'une petite pause musicale. J'avais prévu un Cool and the Gang Jungle Boogie qui n'est pas passé, donc du coup dédicace à toi Bruno, puisque tu vas voir QT Mreez qui chante une chanson qui s'appelle Boston Celtics.
Shit cost me. Damn. Real boss bitch, so she at Boston. Blue T's, yeah, peep out the coffin. Ray John Rondo, I'm across to Boston. Celtic, Kevin Garnett in his prime. No rolling, ain't doing no time. I'm burning out every time. It's a BNE flow, nothing like them other guys. Can't do 9 to 5, you living your life in disguise. Stop feeding them people, them lies. That shit get caught. That shit get you took off the mouth. Big church, I'm clutching my scrap. I'm the custom preacher, but really, I think he misleading. Cause lately, I'm acting a demon. See, from the tour, I read it. The jacket they feeding, I'm skipping the school to go serve. Poking them houses early. Now I'm in the house and I'm lurking. On do purse, I'm purging. They think they ran the city, nigga. We ran the town. Her ass ain't real, I bought it. Stupid drip, nigga, go take the closet. Look cost, so you know this shit cost me. Real boss bitch, so she at Boston. Blue T's, dead people out the coffin. Ray John Rondo, I'm across to Boston. Celtic, 33 shots, Larry Bird. Nigga kill who ain't hurt. Got more suited than the Spurs. Nigga, I'm bolder than bold. I done walk all through the first. See if that's him on the first. The Jackies, they shop on the first. Mama got racks in her purse. He can't come spin, I got put him on the shirt. Now he getting covered with dirt. Out. Adios. Fuck, nigga, I'm saying goodbye. At least that young nigga tried. Send more suitors, they die. All of them put in the sky. People with me, you can't hide. Cause all of my niggas, I
get it, nigga. We run the town.
Désolé pour les petits problèmes de son qu'on a rencontrés. C'était le fichier qui était pas super. Mais en tout cas, voilà, on a remonté 35 ans de décennies à défendre comme des forcenés en compagnie d'une armada de salopards historiques, hein, prêts à tout pour empêcher l'adversaire de marquer. Mais s'il est un club qui incarne les valeurs peu sexy du hustle basketball, hein, qu'on pourrait traduire tant bien que mal par basket rugueux, ce sont les Detroit Pistons. Club cher à notre Mehdi national, rebaptisé pour cette émission Mehdi Fence. Belle celle-là.
Bien, joli passe dé.
Alors, quand j'ai proposé le logo story à Bruno, je voulais un œil objectif et un timing précis, hein, chose impossible à obtenir de la part du fou furieux assis à ma gauche. J'ai reçu bizarrement une centaine de lettres de menaces de mort. Et j'ai donc finalement décidé de te confier cette délicate mission Mehdi Fence. Allez, roule ma poule.
Yeah, allez, c'est parti. Go, Piston, go. Alors les amis, on y va sur la plus belle équipe du monde.
Allez, tout pas... simplement.
C'est objectif ou pas?
Encore deux,
je suis viré.
Alerte, manque d'objectivité.
Allez. Alors, les Detroit Pistons. Alors, c'est une équipe située au nord du pays des États-Unis, dans le Michigan. Une équipe à l'image de la ville et de la dureté d'y vivre. Parce qu'il fait quand même assez froid. Hein,
Il fait froid et c'est sinistré ville. Quand même. Hein.
Ouais. Alors, il faut savoir que les Pistons sont fondés en 1941 sous le nom des Fort Wayne Zollner Pistons dans l'Indiana. En fait, c'est deux franchises. C'est fondé dans l'Indiana. L'équipe était à l'origine sponsorisée par une entreprise qui fabriquait des pistons. Et c'est pour ça que des pistons de moteur. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les Pistons de.
Après, c'est bien tombé.
Ouais, parce que c'est la ville quand même de la voiture, pour ceux qui nous écoutent. C'est Ford.
Ouais. Non, mais ça, c'est à Indiana. Hein.
C'est pour ça que je dis que c'est bien tombé.
Après, voilà.
C'est Bono qui l'a dit. C'est pas moi.
Moi, je me comprends.
Ça va, les gars? Ça va. Putain, on est trois, on se comprend pas. Imagine à la radio. Allez. Alors, en 1957, elle déménage donc à Détroit. La ville automobile par excellence et devient officiellement les Detroit Pistons. Alors, les Detroit Pistons, c'est 3 titres NBA et 5 finales NBA, parce qu'ils ont quand même fait les finales en 55 et en 56.
D'accord.
Voilà. Et ils les ont perdus en 88, 2005 et 56 et 55. Ouais. C'est ça. J'y suis. Allez, on y va. Historiquement, donc, entre la naissance de la franchise et son arrivée en NBA, depuis 1957, en fait, au début, ça a été un peu cata, quoi. Ils jouaient, mais il n'y avait pas de résultats, il ne se passait pas grand-chose. Et le premier tournant dans leur histoire, il se fait à la draft 81, parce que les Pistons ont le deuxième choix et ils jettent leur dévolu sur un certain meneur, Isaiah Thomas, qui va devenir un emblème de ce club. Et un joueur assez controversé pour ses discours... D'ailleurs, il n'ira pas aux Jeux Olympiques en 92 sa tension avec Michael Jordan, qui ne voudra pas de lui dans la Dream Team, alors que, basketement parlant, il aurait eu largement sa place.
Ah oui, c'est sûr.
Donc le meneur est rejoint, qui sort de l'université d'Indiana, pour boucler la boucle. Et Indiana va revenir beaucoup dans ce discours. Donc le meneur issu de l'université d'Indiana, et il transfère le pivot en provenance de Cleveland, un certain Bill Laimbeer, le boucher, charcutier,
l'homme le plus haï de l'histoire du basket.
Ah, je pense
c'est ce qu'on dit.
Ah ouais, c'est
dans
ce qu'il
se
dit.
Bah, dans c'est pour 3. Ça qu'il est pas au Hall of Fame non plus.
Non, c'est vrai qu'il est pas au Hall of Fame. Ouais, non. Ah, hein, pourtant, il...
Mais son maillot est retiré quand même à Détroit. Hein.
Ah bah,
comme quoi, ils se.
Ouais.
Non, ils assument leur.
Allez voir des images. Ouais. Bill Laimbeer, basketball. C'est un label.
Et donc, il y a l'arrière Vinny Johnson qui arrive, lui, de Seattle, parce qu'à l'époque, il y avait une franchise à Seattle, les Supersonics de Seattle. Et donc, il commence à arriver, et tous les trois sont vraiment la naissance de l'équipe qui gagnera les titres en 89 et en 90. Dans ce club, les drafts sont très importants dans les années 80, parce que en 1985, en 18e choix, ils prennent Joe Dumars, qui est un super tireur d'élite à 3 points, c'est un super arrière, c'est un gros défenseur, et c'est le joueur qui mettra le plus de paniers à 3 points de l'histoire des Pistons pour l'instant. Et en 86, ils ont le 27e choix, et ils recrutent un certain
Dennis
Rodman, l'homme fou. Donc ils commencent à avoir une équipe incroyable, et ce qui caractérise tous ces joueurs, ils ont tous le même profil, c'est qu'ils ont tous des gros caractères.
La dureté aussi.
Elle a une grosse dureté, un amour de la défense et surtout un amour de pas se laisser marcher sur les pieds. Ouais. Ce qui va être leur caractère.
On pourra ajouter Rick Mahorn, John Sally aussi, qui sont des joueurs vraiment. Parfois, ils étaient même limités niveau basket. À un moment, c'était un peintre.
Ils n'étaient pas là mais pour ça.
Donc, de 82 à 86, Détroit joue, gagne pas mal de matchs, mais fait rien de spécifique. Et en fait, la franchise décide en 86, elle va se transformer et va tout miser sur un impact de jeu qui fera leur légende, la défense. C'est-à-dire que c'est entre l'année 86 et l'année 87 où les joueurs se réunissent et ils décident de devenir une équipe impassable. Et là, ils décident qu'à chaque fois qu'un joueur arrive dans la raquette, de toute façon, il va partir sur la ligne des lancers francs. Ils ne laisseront plus de panier facile à leurs rivaux.
Juste pour préciser qu'on est quand même dans l'époque, pleine époque du Showtime, en plus de Los Angeles. C'est-à-dire que c'est vraiment le basket à l'opposé. Donc Détroit, ils construisent leur identité.
Autre,
complètement à l'opposé de ce qui se fait, ce qui fait gagner des matchs en plus.
Parce que là, il y a vraiment la rivalité dans les années 80 entre les Lakers et les Celtics. Ah oui, c'était vraiment Larry Bird d'un côté, Magic de l'autre. Ouais. Et il y a limite que ces deux franchises existent et les autres sur le côté. Donc les résultats sont immédiats. En 87, ils arrivent en finale de conférence, donc contre Boston, qu'ils perdent 4-3, mais ça a été un massacre. Les Bad Boys sont nés. Là, ils commencent vraiment à être regardés de travers par toutes les franchises, et les franchises commencent à avoir peur de venir jouer à Détroit, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre venir jouer à Détroit et jouer chez eux. Leur défense rugueuse à la limite de la régularité est redoutée par toute la ligue. En 88, les Pistons montent encore d'un step. Ils arrivent en finale NBA après avoir écrasé les Celtics 4-2, coucou Bruno. Mais en finale, ils retrouvent les fameux Lakers, qu'ils perdent 4-3. Mais alors, il y a un détail dans cette finale, c'est qu'au match 6, donc les Detroit Pistons mènent 3-2, et les Lakers sont sauvés par un coup de sifflet sur une faute sifflée à Bill Laimbeers, qui l'a pas faite. C'est l'une des rares qu'il n'a rien fait de sa vie. Et elle a été sifflée. Ouais. Ils ont eu deux lancers. Ils sont passés et ils ont gagné le match là-dessus. Ils gagnent d'un point les Lakers. Ouais. Et ils gagnent le match 7. Autre tournant de la franchise, donc entre l'année 88 et 89, les Pistons rentrent dans la nouvelle salle, le Palace d'Auburn Hills. Alors le Palace d'Auburn Hills, c'est vraiment un joyau.
C'est une légende. Hein.
C'est une légende. Et il faut savoir qu'avant tous les matchs, il y a un énorme bruit de moteur avant chaque match et deux grands lance-flammes de chaque côté. C'est incroyable. Si vous avez l'occasion de voir un
vrai match. Alors, ils passaient en plus en public avec les drapeaux. Mmh, parce que c'est les potes des Bayou avec des têtes de mort. Quoi. Enfin, les drapeaux, c'était vraiment impressionnant. C'est vrai que les équipes qui venaient dans un public un peu familial, etc. Après, le public de Détroit a toujours été un bon public. Ils ont chié ces dernières années, mais c'était un grand public. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance particulière qui est vraiment loin de celle des strass et des paillettes de Los Angeles. Ouais. Quoi.
Donc, cette salle est magique, en fait, car lors de leur première saison, ils remportent 63 victoires. Et arrive en finale de conférence contre les Bulls de Michael Jordan. Et le titre arrive sur un 4-0 aux Lakers. C'est-à-dire que là, la défense, elle a détruit tout le monde. Et vraiment, une équipe est née. C'est le premier titre de Détroit. La première année dans la nouvelle salle. Donc en fait, il y a un mythe quand même dans cette salle qui est pas mal. Détroit renoue avec le titre en 90. Donc ils font le back-to-back en finale contre Portland, gagné 4-1. Avec des titres en rafale, là il rafle tout, Rodman est meilleur défenseur, Thomas est MVP, c'est vraiment l'année de l'aboutissement. Par contre, il y a un truc qu'ils n'aiment pas, parce que comme ils hachent un peu le jeu et qu'il y a énormément de coups sifflés, la Ligue va intervenir, donc la Ligue n'aime pas trop ça. Le jeu dur de Détroit, et sort de nouvelles règles afin de faciliter le jeu le plus gracieux, celui des Chicago Bulls. Donc en fait, toutes les fautes violentes, toutes les fautes antisportives et autres, ça arrive où ils commencent à avoir des lancers, et tu récupères la balle. Donc, ils ne vont plus pouvoir hacher le jeu comme ça. Et ça va vraiment être un tournant parce qu'ils vont être obligés de changer un peu leur jeu. Et ils n'y sont pas arrivés parce qu'en 91, ils sortent par les Bulls avec cette fameuse image quand ils sortent.
Oui. Quand ils sortent, ils ne vont pas saluer
les Bulls, ouais. Et surtout, ils sortent avant la fin du match. C'est-à-dire qu'ils laissent les 5
secondes, je crois, qu'il reste.
Ouais, ils laissent les 5 sur le terrain et eux, ils ont déjà tous rejoint les vestiaires.
Ouais. C'était plus que limite. Il n'a pas aimé Jordan.
Non, il n'a pas aimé.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas au JO, notre ami.
Et il les a punis les années suivantes, derrière. Ouais.
Ensuite, dans les années 90, donc les... ah, faut que j'aille vite. Ah, mais j'ai encore 8 pages. Non, donc, Détroit atteint son apogée.
Encore 2 minutes, mon gars.
Et tous les joueurs vont quitter le navire les uns après les autres. Donc, les années 90 vont être sans performance et souvent balayées au premier tour. L'autre tournant de cette franchise, donc Joe Dumars, qui était très important dans les années 80, arrive au conseil d'administration au début des années 2000. Et lui, va révolutionner la franchise. Donc, sa première décision, c'est de trader Grant Hill, qui est un magnifique joueur, contre un certain
très
pivot, Ben Wallace, qui arrive d'Orlando, que les gens connaissent, mais sans plus.
Par ses muscles, mais ouais.
Et il prend le coach Rick Carlisle, et il remporte sa première série de playoffs en 2001, depuis 1991, donc pendant 10 ans, ils n'avaient pas gagné un titre. Mais ça, c'est l'histoire de Détroit. Il y a eu des bas, des hauts, des très bas, et des très hauts. Quoi. Dumars recrute l'agent libre Chauncey Billups, qui était agent libre, et échange Jerry Stackhouse, la star de Détroit à l'époque, contre un certain Richard Hamilton des Washington Wizards. Tayshaun Prince est sélectionné en 22e position de la draft en 2002, après une bonne carrière universitaire dans le Kentucky, et l'apogée arrive en 2004 avec l'arrivée de Rasheed Wallace et Larry Brown comme coach qui arrive de Philadelphie. Détroit jouera son meilleur basket de 2004 à 2009, avec le titre en 2004, mettant fin à l'écrasante domination des Lakers. Sur cette série, le Shaq sera très embêté par la défense de Big Ben. La défense a encore une fois pris le dessus sur le star system des Lakers. Aux Lakers, à l'époque, il y avait Shaq, Kobe, Malone, Payton. Enfin,
ils ont fait une armada de normalement, ils avaient le titre. Ils ont pris une leçon.
Et est-ce que vous connaissez les points marqués en finale par les Lakers? Les points encaissés par Détroit sur les 4 victoires?
Ça doit être tourné à 80 points de moyenne. Même
75.
Pas.
68, 80 et 87. Ah. Ils n'ont pas dépassé une fois les 90 points sur les matchs en finale.
Et ça, c'était vraiment incroyable. Après, c'était une époque assez basse en quantité de points marqués.
En 2005, Détroit vise le back-to-back, comme pour refaire 89-90, mais arrive un fameux 19 novembre 2004. Et là se passe l'impensable Malice at the Palace.
La
plus grosse baston de l'histoire. Faut aller voir, il y a des images partout. Ouais. Pour la faire simple, c'est Ben Wallace qui est avec Meta World Peace sur un rebond. Ils se prennent un peu la tête. Il y a une petite flopée de phalanges qui partent. Hein. Bon, là, tout le monde commence à se battre. Donc
ça balance. Hein,
ça balance de partout. Oui, il y a des nions qui partent. Et en fait, pour chambrer, donc, Ron Artest s'allonge sur la table de marque de Détroit. Et là, il y a un fan dans le public qui lui balance sa bière sur lui. Et là, il pète un câble, il monte dans le public et il va se battre avec les supporters. Et là, c'est...
Il y en a un d'autres, Jermaine O'Neal arrive derrière.
Ouais, Jermaine O'Neal.
Stephen Jackson, qui met une patate à un mec.
Une bagarre générale entre les Pistons et Indiana qui entraînera une suspension de 8 joueurs pendant un temps et des amendes, mais alors des amendes records.
Ils ont été suspendus des moitiés de saison.
Alors malgré tout, les Pistons arriveront encore en finale cette année-là, mais ils jouent contre les Spurs et tout va se jouer sur un game set, ce qui est très très rare. Hein. Il y a 3-3, ça joue en tête. Et je vous dis, un game set, même pas. Parce qu'à la fin du troisième quart-temps, il y a 57 partout. C'est-à-dire que la saison se joue sur un quart-temps. Et les Spurs joueront mieux et géreront mieux la fin du match. Entre les événements de novembre et Larry Brown qui a passé son année à vous le dire qu'il voulait se barrer aux Knicks, la saison se termine un peu dans l'incertitude, en noeud de boudin et partions. Il faut savoir que 2004 à 2009, les Pistons sont en finale de conférence tous les ans. C'est la meilleure équipe de l'Est des années 2000. Mais à partir de 2010, la franchise va se déliter et les années sombres commencent. Il faut savoir que 2010 à 2022...
C'est une catastrophe.
Il ne fallait pas trop être supporter des Pistons.
2024,
ils ont
bien.
Même l'année dernière
2024,
encore.
C'est 28 défaites consécutives.
C'est le record. Hein,
Et là, cette année, résurrection. Ouais.
Ils ont fait deux fois une série de playoffs en 2016 et 2018 contre Cleveland et Milwaukee.
Ouais, bon,
deux fois
oublié ça.
Deux fois 4-0.
Ah ouais. Oh, ouais. Beaucoup plus m'étonne qu'on les a oubliés.
Est-ce qu'il y a un espoir cette saison? Espérons. Ils ont un super roster, ils ont des super joueurs, l'ambiance elle est top, mais ils n'ont pas l'identité de défense qui a fait la vie des
Trois. Mais ils ont quelques méchants.
Mais ça se pourra plus, ça pourra plus exister parce que les règles ont trop changé pour que tu puisses se défendre comme ils défendaient.
Alors pourquoi on aime les Pistons? Parce qu'ils représentent l'ouvrier du basket. Pas de paillettes, juste du travail, de la défense et de la sueur. J'avais encore toutes les anecdotes.
Non, on peut pas.
Oh, faut que j'arrête.
Ah, enfin, il sait pas gérer son temps de garçon. On enchaîne
quand on est
avec
passionné.
Le quiz du
Quiz du Cosmo. Quiz du Cosmo.
Un truc, c'est démarré, les gars.
Quiz du Cosmo. Quiz du Cosmo.
Vous le savez, chez Money Time, on est joueur et rien de tel qu'un bon quiz du Gosbo pour tester nos connaissances et les vôtres, bien sûr, en matière de culture défensive, chez vous, dans l'intimité d'un similier cuir Paltrone et Sofia, solo birra di qualità, et voilà.
Et voilà.
C'est parti pour un quiz de qualité animé aujourd'hui d'une main de maître par Bruno, notre Philippe Rizoli du pauvre.
Et non, j'avais encore 3 pages hein, sur.
Non. Vas-y, c'est parti, Bruno.
Ouais, bah, alors déjà, on va commencer par les joueurs extérieurs, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé, on aurait pu faire 2 trophées de défenseur de l'année.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez me citer les 3 seuls joueurs extérieurs qui ont remporté
Marcus Smart
en 2022?
Jordan.
Non. Il est considéré comme au 21e siècle, je te dis. 21e siècle.
Ah, au 21e siècle.
Ah, 21e siècle. Attends, dis rien.
Bowen, non?
Non.
Non, c'est pas Bruce Bowen.
Tu viens d'en parler en plus. Notre ami.
Rip. Non, pas.
Je ne sais.
Ron Artest.
Ron Artest. Ah, Ron Artest. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a eu. Ouais.
Et Kawhi Leonard 2 fois aussi.
Ah oui, Kawhi.
D'accord. Okay.
Donc c'est. Ouais.
Ah ouais, pas mal.
Et bon, on a parlé aussi de statistiques. Donc en statistiques, il y a les Pistons de 2004, ils ont fait un truc exceptionnel qui est inégalé dans la NBA moderne. Alors ce qu'on appelle moderne, donc les années 2000. Parce qu'avant, de toute façon, il n'y avait pas trop de stats. Donc c'est quoi cette performance statistique défensive des Pistons de 2004?
C'est négatif, c'est ça? Le nombre de fautes dans un match?
Non.
Le nombre de techniques dans un match?
Non. C'est réussir. Bon, on l'a évoqué, mais c'est vraiment 5 adversaires consécutifs sous les 70 points,
ouais.
Entre le 4 et le 14 mars 2004. Ah, donc c'est un truc qui est inégalé quoi. Ah, moins de 70 points.
Bah, moins de 70 points, c'est rare de toute façon.
Ah, ouais,
5 clair. Fois de suite.
Ouais. Ouais, c'est pas hasard. Hein.
Donc il y a
Utah qui doit le faire de temps en temps.
Ouais. Non, mais sans défendre en plus.
Ils en prennent 140, ouais. Mais ils en mettent 70. Bon. Ouais.
Après, je me suis dit, tiens, on va prendre un peu les tactiques, entre guillemets, qui sont restées un peu dans l'histoire. Alors, je sais pas si vous auriez 2-3 tactiques.
Hack-a-shack.
Ah, voilà, hack-a-shack.
Oui. Pareil, changement de règle, parce que ça devenait insupportable pour la Ligue. Parce que
le mec faisait des fautes systématiques pour
Olivier. Exactement. En fait, mais même s'il était à l'autre bout du terrain et qu'il faisait pas partie du jeu, il venait l'encercler pour l'envoyer sur la ligne.
Qu'il était à 30%
en lancer. Oui, c'était une catastrophe, hack-a-shack. Et d'ailleurs, Kobe, qui jouait avec lui, a toujours dit que cette règle était une catastrophe parce que s'il voulait que ça s'arrête, il avait qu'à être meilleur au lancer franc. Oui. Donc le mec qui joue dans cette équipe était contre la règle pour lui faciliter la vie.
C'était une deuxième règle, c'est ça? Jordan Rules.
Ah bah voilà. Voilà. Jordan Rules, donc les fameuses règles des Pistons.
Faut pas aussi taper sa majesté.
Fallait le mettre au sol. La consigne, c'était vous le foutez au sol.
Il y a un peu avec les Knicks de 94, il y a un peu une chose qui est. Enfin, c'était déjà Monsieur Riley, donc à l'époque, Pat Riley.
SP.
Donc, qui a fait aussi, qu'on peut dire un peu le hit culture, c'est un peu aussi une technique
carrément.
C'est de défense, quoi. Toi, il y a
carrément hérité du New York Knicks. Des
je savais que ça ferait plaisir au patron, là.
Ah, bien sûr, toujours.
Et puis,
c'est du temps, on a une équipe.
On met pas l'alarme, là. D'accord, ok. D'accord. Merci.
No blood, no fall.
Ah oui.
C'était ça, les Knicks de 94.
Oui.
Si ça saigne pas, il n'y a pas faute.
Ouais. Bon. Bah, tu sais qu'il y en a un autre, c'est Rachid Wallace qui faisait ça aussi. Ouais, quand il faisait faute et qu'il pensait qu'il n'y avait pas faute, il disait la ball don't lie, la balle ne ment pas. Et quand il lançait ses lancers francs, tu pouvais être sûr qu'il y en avait des deux ratés. Il se foutait de lui en plus.
Ouais, bah, c'était. Puis bon, après, ça c'était un peu truc streetball quoi. C'était vraiment une époque où le premier treat de défenseur de l'année de l'histoire, c'est qui?
Quelle année?
À 82.
82.
Ça a été créé en 82.
Michael Cooper?
Non.
Magic?
Il est 2 fois de suite en plus, il joue pour les Bucks. À l'époque.
Il joue pour les Bucks.
Sidney Moncrief.
Bon. Ah oui, le nom me dit quelque chose.
Alors, les 3 joueurs les plus titrés en DPI.
Du coup, Gobert.
Wallace.
Mutombo.
Mutombo.
Ouais, bien vu.
Bon, les surnoms, on en a parlé un peu, qui sont assez rigolos. C'est quoi le surnom de Dennis Rodman?
The Worm.
The Worm.
Le Vert.
Et le Gary Payton.
The Glove.
Quel est le premier à avoir remporté à la fois le titre de MVP et défenseur de l'année?
Jordan,
saison 87-88. Et les joueurs qui ont jamais été défenseurs de l'année, vous en avez comme ça des...
Moi,
beaucoup.
Tu l'aurais mérité.
Ouais.
Ah, drôle idée, tu l'as dit. Derrick White, ces années-là.
Scottie Pippen, Patrick Ewing, Tim Duncan.
Ouais, mais Pat Ewing à son époque, t'as quand même Olajuwon, Mutombo, Robinson.
Ouais, c'est dur aussi.
Chercher, c'est dur.
Kobe Bryant, n'a jamais chopé.
Ouais, c'est vrai.
LeBron James.
Ouais.
Pourtant, LeBron James, il a quand même eu au moins une action qui reste dans l'histoire.
Le bloc en 2016.
Ouais. Qui reste, et puis forcément, Kareem Abdul-Jabbar ou Bill Russell.
Mais ça, c'était avant, ça n'existait pas.
Voilà.
Ah ouais. Voilà,
cette question.
Exactement.
C'est ça l'idée.
On a fini ?
Bon, après, je peux vous dire, il y a un petit truc qui est rigolo, c'est les trois joueurs. Si tu comptes en fait les sélections All Defensive Team, ça c'est un truc assez rigolo. En fin d'année, ils te font des All Defensive Team. Mm-hmm. Et c'est quel joueur, si tu cumules les sélections en First Team et en Second Team dans l'histoire ?
Le 5.
Qui est le premier ?
Pippen ?
Non.
C'est quelle franchise ?
Spurs.
Ah, Duncan.
D'accord, ok.
Il a été 8 sélections en first team, mais il a été 7 fois en second team. Ouais. Et en fait, même Garnett, derrière, tu vois, il est en 9 sélections en first team, c'est tout. Mm. Mais Duncan, finalement, il a plus de sélections cumulées et régularité dans la.
Donc il n'y a pas de débat, on est d'accord. Ouais, merci.
Voilà, au moins le débat est tranché. Allez, on enchaîne avec le buzzer beater.
Personne ne tue personne dans mon établissement, à part moi et Zed. Et Zed, le voilà.
Mène la crampe. Ben, je crois qu'elle pionce, la crampe. Ben alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller, si elle pionce ?
Par lequel tu veux commencer ?
Je me tâte. Et maintenant
quoi ? On va te le dire, moi, quoi. J'appelle deux experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos deux copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc ? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse.
Pour parachever toute bonne émission de Money Time qui se respecte, notre buzzer beater du jour est consacré à ce qui se fait aujourd'hui de mieux en matière de duo défensif extérieur dans la Ligue. On a donc sélectionné plusieurs paires de menottes capables de mettre un match ou scellé ou de cuire un rôti de bœuf à l'étouffée façon Maïté. Alors justement, les nominés pour le César du meilleur duo dans un film SM sont donc, messieurs, la paire Lugensdorf, oh, j'y ai arrivé. Oh, il a un prénom à la con, mais. Lugens. Qui est-ce qui s'appelle Lugens ? Et je dirais pas en face.
C'est associé avec qui, ça ?
Avec Shai Gilgeous-Alexander.
C'est deux prénoms.
Ça, ouais, c'est clair.
Lugensdorf, mais... c'est Shai
Lugensdorf et Shai Gilgeous-Alexander dans le film Ma baladeuse à OKC.
T'aurais pu mettre Jalen Williams autrement. C'était bien aussi
ouais,
Jalen Williams.
Il y avait possibilité, Lugens. Mais bon, j'ai mis Shai. Voilà. Ensuite, on a le duo Derrick White, Jrue Holiday de Boston dans Attache-le si tu peux. Le binôme Amen Thompson, Dylan Brooks de Houston dans Affreux, sale et méchant.
Amen Thompson.
Le duo Jalen Suggs, KCP, Kentavious Caldwell-Pope, d'Orlando dans Disney World est fermé, désolé.
Bof.
De toute façon, depuis le temps que t'as mis les Celtics, il fait bof.
La paire McDaniels, Anthony Edwards pour Minnesota dans le film Les loups ont tout bouffé. Alors, je précise que ne pouvaient prétendre que les équipes placées dans les 6 meilleures défenses du championnat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de joueurs, il y a certaines équipes avec des bons défenseurs qui ne sont pas à nommer, et les joueurs dépassant 25 minutes de temps de jeu.
Ok.
Ouais. Messieurs, quelle est selon vous la meilleure paire, ou est-ce qu'il y a un débat ? Alors, on va écarter peut-être effectivement la paire Suggs, qui vient d'apprendre d'ailleurs que
la blessure
était terminée.
J'enlèverai la paire d'Orlando et la paire de Minnesota. Parce que la paire de Minnesota et Kampman, c'est toujours pareil, c'est quand il a envie.
Ouais.
C'est quand il a envie. Défenseur, et... ouais. Si, c'est un bon défenseur. Quand il a envie.
Ouais, bah justement.
Ouais, mais c'est pour ça que moi je...
D'accord, non, donc on élimine aussi, Senna, ouais, donc ouais, du coup ça va se jouer. On est d'accord, sur la troisième marche du podium, on mettrait certainement Emmen Thompson, Dillon Brooks.
Ouais.
C'est quand même deux défenseurs de qualité. Brooks, c'est le méchant...
Et Emmen Thompson, il est le méchant sur un terrain de basket. Oui, parce qu'en dehors du basket, il est très sympa. Ouais. Ça se voit dans la série là, qui est passée sur les Jeux Olympiques.
Oui.
Elle est vachement
bien. Sa famille, je la conseille, il mange une pizza.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Comme quoi, manger des pizzas avec vos familles, ça vous...
Et il boit du vin la veille du match contre l'équipe de France. Ça lui a bien réussi.
Sorti, et voilà.
Ok. En tout cas, voilà. Donc Emmen Thompson, super.
Je pense qu'il est de bonne mention pour le défenseur de l'année. Il est quand même bien cité aussi.
Ouais, c'est un très très bon défenseur et puis très complet, en plus très athlétique. En tout cas, Houston réalise une bonne saison, même si
là,
ça va moins bien.
Ça
commence en train de redescendre, mais là ils sont longtemps appuyés sur une très bonne défense. Ce qui fait que, messieurs, clairement, si on doit choisir le meilleur duo défensif, il y a quand même débat.
Ah mais bien sûr.
Luke Getzdort.
Ok, si, font quand même leur preuve cette année. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore gagné, alors on a encore des doutes. Mais...
Moi, je pense que Dort est le meilleur défenseur extérieur aujourd'hui en NBA.
Non.
Pour ma part.
Moi, j'aimerais bien
que ce soit... Je pense que c'est lui. Je l'ai vu calmer Doncic.
Dyson Daniels.
Il est bon aussi, ouais.
Meilleur intercepteur de la NBA.
Oui, on est d'accord, mais il ne fait pas partie d'un duo défensif majeur dans une équipe.
Il est un peu tout seul au Hawks.
Donc j'imagine que pour vous, et ce serait, pour moi, ça me paraît concevable, parce que Shai Gilgeous-Alexander est un très très bon défenseur, intercepteur, contreur. Il a un compte de moyenne.
Parce que tu parlais sur les petites déviations, les petites...
Voilà, exactement. Donc, petites... main très active, etc. En plus d'être très, très bon offensivement. Et c'est vrai que...
Moi, je ne vais pas te cacher que j'attends cette finale avec impatience.
Boston.
Ah ouais, ça va être quelque chose.
Ça pourrait être un autre style avec les Cavs aussi, parce qu'eux, ils ont un gros duo d'intérieur costaud, quoi. Ouais. Jared Allen et Van Mobley. Contre les intérieurs.
Moi, il y a deux temps que j'attends. Je vous le dis, c'est effectivement la finale. Et pour moi, je vois pas trop comment ça peut être autre chose que Boston. Que Boston, la défense de Boston, quand ils s'y mettent, c'est vraiment impressionnant.
Ouais, c'est ça.
Boston, donc OKC. Okay, et j'ai hâte de voir aussi la finale de conf, parce que moi, je vois pas ce qui peut en être autrement à l'Est, entre Cleveland et Boston. Même si je pense que Boston a plus de garanties.
Attention à la surprise, Miami.
on peut citer Bam Adebayo.
Comme Butler, défenseur. Oui, mais après, Adebayo, déjà, c'est un intérieur. Et puis en plus.
Défenseur de l'année, tu vois, il est.
Je te dise, qui est-ce qui va l'avoir? C'est Jared Jackson Jr.
C'est ce qu'ils disent, mais il est blessé.
Je trouve pas ça normal.
Si, il est énorme.
Ouais, mais c'est un très bon défenseur, mais il prend 5 rebonds de moyenne. Tu fais 2m13, tu prends 5 rebonds de moyenne.
Ouais, mais il est
actif, il défend sur tout le monde. Le mec, c'est le seul qui défend dans son équipe. Ouais, mais
déjà, Wemby est blessé, donc c'est le premier critère pour être défenseur de l'année.
Ouais,
et pour revenir sur ton débat, oui, moi, pourquoi je mets Drew Holiday et Derrick White, c'est parce qu'ils ont déjà montré, en fait.
Ouais, c'est ça.
Pour l'instant, ils ont déjà montré. On en reparle l'année prochaine si OKC gagne le titre.
Shai s'est planté avec le Canada au JO. Ils se sont plantés là, en finale de la coupe là, qui vaut ce qu'elle vaut, mais ils sont quand même pas réussi à aller au bout.
Ouais.
Donc, il faut qu'ils fassent leur preuve. On va
ils risquent d'avoir le MVP déjà.
En tout cas, pour conclure cette émission, je trouve que c'est bien de conclure sur cette fameuse paire de menottes ambulantes, Derrick White, Drew Holiday, qui ont quand même un impact sur un terrain. Il faut voir ce que c'est.
À la défense, de toute façon, ça reste toujours un jeu d'équipe. Quoi. Enfin, on l'a vu avec Gobert, on a beau cracher dessus. Enfin, quand Utah l'a laissé tout seul là, sur la dernière saison où il fait. Et avant, c'était une super équipe défensive. Après, il le laisse tomber à moitié. Et là, on voyait que même si t'es le meilleur défenseur du monde, si t'es tout seul à défendre.
Oui, c'est sûr. Mais là, Boston, c'est.
Dans un système.
Fait force, c'est que
c'est
déjà.
C'est qu'on les a vus quand ils ont décidé de défendre Boston.
Parce que même Jalen Brown, on pourra en parler aussi.
Même Tatum, ça défend.
Tatum, c'est un super défenseur.
Horford.
Puis si t'as le protecteur de cercle, c'est
Horford, 40 ans.
Horford.
Ouais, c'est pareil. C'est vrai que. En plus, Porzingis protège le cercle. C'était un peu leur point faible avant. Là, maintenant, Porzingis, je l'ai vu mettre quelques bâches, mon gars. Je trouve qu'il est beaucoup plus physique qu'avant. La question, ce sera sa fragilité. Ouais. Mais Holiday, je voudrais terminer sur Holiday, parce que le nombre de fois où son match-up, le mec qu'il a en face de lui, c'est un plus grand que lui. C'est un intérieur. Régulièrement, il envoie scoltiner des Jokic en premier rideau sur Jokic. T'imagines la masse que c'est. Et il recule pas, quoi.
Après, c'est ça la différence avec Lugendorf. Parce que Lugendorf, il est physiquement, il est quand même mastoc. Ouais, il est impressionnant. C'est autre chose que Drew Holiday. Tu vois, il y a une différence de physique. Il est peut-être la même taille, je pense. Mais c'est
mais niveau, sur le duo aussi. Tu vois, moi, ce que j'aime dans la défense de Boston, c'est que les cinq tu peux aussi leur donner la balle en attaque. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui va se catcher. Parce qu'il y en a eu plein des gros défenseurs dans l'histoire du basket. Mais c'était des défenseurs et après ils allaient se mettre dans le coin à 3 points et ils attendaient la balle pour là, shoot ouvert.
Le fameux 3&D.
Le Bruce Bowen time, c'était ça. Après, il a rendu pas mal de services aux Spurs, hein. on va pas se cacher. Mais aujourd'hui, Boston, ils savent tous défendre, ils savent tous attaquer.
Et on termine sur cet adage justement. L'attaque fait gagner des matchs. La défense fait
comme le dit le grand sage Nico Harrison. La défense fait gagner des titres.
Les titres, c'est la défense. Et c'est vrai
peut-être
que
pas cette année,
prenez toutes
pas
les prochaines. Toutes les équipes qui ont été championnes ces dernières années. Elles s'appuyaient sur une défense.
Et c'est l'exemple qu'on donne avec les Warriors. On oublie trop souvent parce que l'attaque prend toujours le pas.
Ouais.
Mais à la base, Steve Kerr, il met un système défensif.
Regarde là, si on continue à parler de la défense, regarde les Warriors là, ce qu'ils font en ce moment. Ils sont pas grands, mais ils sont tous d'un niveau physique.
Moi, j'ai regardé le match tout à l'heure contre New York, où New York a l'avantage de taille, où ils ont des super joueurs et tout. Mais alors, à voir, c'est pareil, Butler, on en a pas parlé, mais Butler est un super défenseur.
Oui, bien sûr.
Et Butler, Green. Et quelques mecs autour qui font le taf.
Minga, c'est un monstre.
Je pensais pas qu'il aurait cet effet là les Warriors.
Voilà, il y a ça et il y a aussi là pour finir les Lakers. Les Lakers, ça prend. Ouais. C'est incroyable. Moi, je pensais qu'ils allaient se faire plier à l'intérieur. Alors,
On va en reparler quand même au mois de juin. Faut en reparler au mois de juin. Messieurs, c'est l'heure de conclure du coup.
Au mois de juin, ils y seront pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça y est.
Au mois de mai. Très bien, messieurs. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Un petit coucou à faire, juste rapidement pour rendre l'antenne ou...
Ouais, coucou la famille, mes filles, ma compagne. Je vous aime, gros bisous.
Ah, moi, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui aiment le basket, mes filles. Voilà. Moi, je vous aime tous, hein, vous savez.
J'aime personne. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. En tout cas, on vous dit rendez-vous pour la prochaine. Ce sera le 19 mars. On vous filera le programme sur Facebook. Ciao!
Salut, poteau!
Salut!